Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI à midi, temps universel, 13h ici à Paris, à Rome, 15h à Istanbul, le tour du monde à la mi-journée. Bienvenue, bonjour.
RFI midi. Charlotte Idrac.
Tout ira très bien, le slogan de l'opposition en Turquie répété par le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, envoyé en prison pour corruption. Son parti, le CHP, organise en ce moment une primaire pour le désigner candidat à la présidentielle de 2028. Le pape François, de retour au Vatican, il a quitté l'hôpital après 5 semaines de soins. Le souverain pontife est apparu pour la première fois en public. Par écrit, il exige la fin immédiate des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Le territoire palestinien où l'armée israélienne mène une nouvelle opération ce dimanche dans le secteur de Rafah. Parallèlement, le gouvernement de Benjamin Netanyahou tente de destituer la procureure générale d'Israël en plein bras de fer sur le limogeage du patron du Shin Bet.
RFI.
À suivre aussi la Lebrun Mania à Levallois, les frères Félix et Alexis, stars au championnat de France de tennis de table, ils se feront face en finale simple cet après-midi. Et puis, pas le droit à l'erreur pour les Bleus face à la Croatie. Quart de finale, retour de la Ligue des Nations de foot ce soir. Le journal des sports, c'est dans 10 minutes.
RFI. Le Monde à midi.
Je ne plierai jamais, promesse d'Ekrem İmamoğlu en Turquie, le maire d'Istanbul, principal rival du président Erdogan. La justice a donc ordonné tout à l'heure son incarcération pour des accusations de corruption. En revanche, celles pour terrorisme n'ont pas été retenues. Ses avocats vont faire appel. Son arrestation a déclenché, vous le savez, une vague de contestations dans le pays. Et c'est dans ce contexte que son parti, le CHP, organise aujourd'hui une primaire pour désigner Ekrem İmamoğlu candidat à la prochaine présidentielle. Cette consultation a été élargie à toute la population, pas seulement aux adhérents. Et à Istanbul, il y a du monde, beaucoup de monde pour y participer, Anand Lauer.
La file d'attente s'allonge devant un bâtiment de la mairie d'Ataşehir sur la rive asiatique dans le quartier d'Örnek, largement dominé par le parti du président Erdogan. Et pourtant, ils sont des milliers à déposer dans l'urne un unique bulletin qui porte la photo d'Ekrem İmamoğlu. Les membres de son parti, le CHP, votent à l'étage. Les autres sont dirigés au rez-de-chaussée vers des urnes dites de la solidarité. Halil, un retraité, est de ceux-là.
La justice ne fonctionne pas normalement. Si c'était le cas, İmamoğlu n'aurait pas été emprisonné, même pas inquiété, car ils n'ont rien contre lui. Beaucoup de ceux qui votent aujourd'hui sont d'abord là pour montrer au pouvoir leur opposition à cette décision.
İrem, elle, est adhérente au CHP. L'emprisonnement d'Ekrem İmamoğlu ne l'étonne pas, pas plus que sa sœur Hanée. Elles sont ravies de l'affluence.
Il n'y a pas besoin d'être membre du CHP pour manifester ou pour voter en soutien à la démocratie, quand l'injustice est tellement énorme, tellement évidente.
Quoi qu'il fasse, İmamoğlu sera président. J'y crois jusqu'au bout. C'est un très bon maire, une très bonne personne. Pas étonnant que Tayyip ne veuille pas se mesurer à lui.
Avec l'incarcération de son unique candidat, le CHP transforme sa primaire en une démonstration de force. Le parti espère récolter plusieurs millions de voix en faveur d'Ekrem İmamoğlu. Un endroit Istanbul, RFI.
Le bras de fer autour du maire d'Istanbul, on y revient avec notre invité après le journal. Une apparition au balcon tout à l'heure à Rome, à l'hôpital Gemelli. Le pape François est apparu à la fenêtre devant une foule de fidèles pour la première fois depuis son hospitalisation mi-février. Grazie a tutti, merci à tous, a simplement dit le pape avant de quitter l'hôpital. Éric Sénan, qu'on vous retrouve en direct de Rome, le souverain pontife, ça y est de retour au Vatican, même s'il devra lever le pied pour 2 mois selon ses médecins. Il a déjà repris ses messages politiques.
Oui, absolument. Si ce premier contact avec la foule fut assez fugace et que la voix du souverain pontife reste fragile, François reste néanmoins très attentif aux affaires du monde. En témoigne ce texte publié par la salle de presse du Saint-Siège à l'heure de l'Angélus tout à l'heure, où il se dit attristé par la reprise des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Le souverain pontife demande la fin immédiate de ces frappes ainsi que la reprise du dialogue pour arriver à la libération de tous les otages et à un cessez-le-feu définitif, a-t-il écrit. Le pape qui, dans son texte, implore aussi la fin de la guerre dans des pays comme l'Ukraine, le Soudan ou la République démocratique du Congo. Quelques minutes après ce premier contact avec la foule, François a donc quitté l'hôpital Gemelli en voiture. Il est allé d'ailleurs se recueillir devant une image de la Vierge dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, avant de faire son retour au Vatican sous les acclamations des fidèles.
Éric Sénan, encore en direct de Rome, dans la bande de Gaza, vous l'avez vu, qui justement, c'est la fuite de nouveau dans le secteur de Rafah. Une partie de la population appelée à évacuer par l'armée israélienne qui a lancé une nouvelle opération ce dimanche. Le ministère de la Santé du Hamas a publié un nouveau bilan de plus de 50 000 morts depuis le début de la guerre à Gaza. Sur le plan intérieur en Israël, le bras de fer se poursuit entre l'exécutif et le judiciaire après le limogeage du chef des renseignements intérieurs, le Shin Bet. Michel Paul, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Un conseil des ministres spécial est réuni là pour engager un processus de destitution de la conseillère juridique du gouvernement, qui est également la procureure générale. C'est une fonction spécifique du système juridique israélien.
Oui, Charlotte, et c'est dans une lettre cinglante que la procureure générale israélienne affirme et accuse le gouvernement de vouloir se placer au-dessus de la loi et agir sans contrôle ni équilibre. Elle qualifie cette réunion du gouvernement portant sur sa propre destitution de dépourvue de validité juridique. L'objectif réel de la procédure, ajoute Galim Baharav Miara, eh bien, c'est de fermer les yeux sur des actions illégales prises par le gouvernement. Le cabinet israélien s'est réuni sous la direction de Yariv Levin, le ministre de la Justice, en l'absence du chef du gouvernement. Benjamin Netanyahu est en conflit d'intérêts pour cette procédure en raison de son procès pour fraude, abus de confiance et corruption. La procédure qui est entamée devrait prendre au moins 2 mois, estiment les juristes. Elle se déroulera en plusieurs étapes, notamment la mise en place d'une commission spéciale dont la constitution se heurte déjà elle-même à des difficultés. Et face au bureau du Premier ministre à Jérusalem, des milliers de manifestants protestent bruyamment contre ce qu'ils affirment être une fracture du système démocratique.
Michel Paul en direct de Jérusalem. Les discussions diplomatiques d'un côté prévues ces prochaines heures en Arabie Saoudite sur le conflit en Ukraine et la pression militaire qui continue de l'autre. Kiev de nouveau ciblé la nuit dernière par des attaques de drones russes. 3 personnes ont été tuées selon les autorités locales. L'Ukraine appelle à faire pression sur Moscou. Le Kremlin, de son côté, dit s'attendre à des discussions difficiles demain et indique que la reprise de l'accord céréalier en mer Noire sera le principal sujet de négociation avec les Américains. Accueilli par la foule, l'ambassadeur sud-africain expulsé par Washington, déclaré persona non grata, Ebrahim Rasoul, est rentré chez lui ce dimanche au Cap, sans regret, dit-il. On y reviendra dans Afrique Midi, 12h30, temps universel. Décidément, ils font la paire, les frères Lebrun, vainqueurs déjà en double au championnat de France de tennis de table qui se poursuit à Levallois-Perret près de Paris. Alexis Lebrun a rejoint là son frère Félix en finale simple. Ce sera tout à l'heure en fin d'après-midi. Révélation des Jeux Olympiques de Paris, les deux frères Lebrun. Et ça ne se retombe pas, cette Lebrun mania, Solène Ravenel.
Les rois de ces championnats, Alexis et Félix Lebrun, qui sont allés chercher une première victoire lors de ces championnats de France en double hier soir dans une ambiance survoltée.
La salle était pleine, il y avait une belle ambiance, on a quand même bien vibré et ouais, c'était cool vraiment.
Il faut dire que les 2 médaillés de bronze aux Jeux Olympiques sont attendus. Céline Martin et Adrien sont venus avec leurs parents.
Pour voir Félix Lebrun.
J'ai toujours rêvé de les voir. Je connais Félix Lebrun et Alexis Lebrun.
Mais c'est l'ensemble des joueurs qui a pu profiter de cette ambiance chaleureuse. Simon Gauzy, également médaillé de bronze aux Jeux, est ravi.
Ils font beaucoup de bien au ping, Alexis et Félix. On en profite. Là, je pense qu'il y avait une super ambiance. J'espère que les gens sont régalés.
Les tribunes remplies dès le début de la journée n'ont jamais désempli. Un engouement pour le tennis de table qui impressionne Christophe Legout, directeur de la compétition.
Ça se voit à plein de niveaux. Ça se voit avec les gens qui font la queue dehors. Il y a des gens qui cherchent des places avec des panneaux un peu comme à Roland-Garros. Et puis les places les plus chères ont été vendues les plus vite parce que les gens ont envie d'être tout proches des frères Lebrun.
Et l'ambiance sera sûrement encore plus forte ce soir lors de la finale homme pour un remake de la finale de l'année dernière.
Et l'an dernier, c'est Alexis Lebrun, le grand frère, qui avait gagné peut-être une revanche. Donc, pour le petit frère Félix, rendez-vous 17h cet après-midi. Avant un autre rendez-vous sportif important, France-Croatie. Bonjour Baptiste Leduc.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Oui, en foot, l'équipe de France retrouve la Croatie au Stade de France en quart de finale. Retour de la Ligue des Nations ce soir et il leur faudra créer l'exploit.
Et oui, les Bleus feraient bien de s'inspirer de Félix et Alexis Lebrun, justement. Une victoire 4-0 comme celle des jeunes pongistes en demi-finale des championnats de France qualifierait les Français dans le dernier carré de cette Ligue des Nations. Pour rappel, ils s'étaient inclinés 2-0 à l'aller en Croatie, dépassés notamment au milieu de terrain par la classe et l'hyperactivité de Luka Modric, la légende croate toujours là, 39 ans au plus haut niveau. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, est impressionné par le Ballon d'Or 2018.
Modric, il y a un moment qui fait des matchs de ce niveau-là. C'est un très très grand joueur qui a toujours été, pour son équipe nationale, un joueur décisif, très influent. Il joue au Real Madrid, il joue pas des matchs de 90 minutes tout le temps, mais il joue. Pour en arriver et se maintenir à ce niveau-là, c'est un grand professionnel qui se gère, évidemment, qu'il a une influence dans l'équipe dans laquelle il joue. Évidemment, il marque le football croate de par tout ce qu'il a fait, mais il se maintient toujours à un très très bon niveau.
Les Bleus ont encore quelques heures pour échafauder un plan anti-Modric. France-Croatie, quart de finale, retour de la Ligue des Nations à 19h45, temps universel.
Et un autre de ces quarts de finale va opposer l'Allemagne à l'Italie ce soir à Dortmund. Avantage aux Allemands au coup d'envoi.
La Mannschaft est allée s'imposer 2-1 à Milan lors de la première manche. Un petit matelas, mais pas assez épais pour se reposer dessus. C'est l'avis de Julian Nagelsmann, le jeune sélectionneur allemand. Il a 37 ans. C'est plus jeune que Luka Modric, par exemple. Mais Julian Nagelsmann, il n'aime pas les calculs. Il aborde ce match retour avec de l'ambition face à une squadra azzurra qui n'a pas dit son dernier mot.
Il serait surprenant qu'ils cèdent sans se battre. J'ai déjà dit après le match que nous ferions bien de repartir à zéro. C'est amusant parce que quand vous obtenez un bon résultat à l'aller, vous discutez avec deux personnes différentes. L'une vous dit « Oh, c'est super, maintenant vous avez un avantage ». Et la seconde vous dit « Oh, ce n'est pas vraiment un avantage parce qu'en face, ils n'ont plus rien à perdre ». Alors je me fiche de savoir si c'est un avantage ou un inconvénient. Juste 0 à 0 et essayons de gagner le deuxième match aussi.
Allemagne-Italie à partir de 19h45 en temps universel. À noter que le vainqueur de ce quart de finale accueillera le Final Four de la Ligue des Nations.
Allez, la Formule 1, le doublé des McLaren au Grand Prix de Chine.
Carton plein pour l'écurie Papaye à Shanghai qui confirme la supériorité de sa voiture sur les autres en ce début de saison. L'Australien Oscar Piastri a converti sa pole position en victoire. Il termine devant son coéquipier Lando Norris, parti 3e sur la grille et qui conserve la tête au classement du championnat pilote. Le Britannique George Russell de Mercedes complète le podium. Dimanche compliqué en revanche pour Ferrari. Charles Leclerc et Lewis Hamilton, 5e et 6e à l'arrivée, ont finalement été disqualifiés. Leurs deux monoplaces ont été jugées non conformes après les inspections d'après-course.
Baptiste Leduc, à tout à l'heure. On vous retrouve dans Mondial Sport, 16h10, temps universel avec Hugo Moissonnier et son équipe. C'est une nouvelle étape du bras de fer en Turquie. Un juge a ordonné ce dimanche l'incarcération du maire d'Istanbul. On en parlait dans le journal. Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Erdogan, arrêté mercredi, ce qui a déclenché d'énormes manifestations à travers le pays. Bonjour Max-Valentin Robert.
Bonjour.
Docteur en sciences politiques, spécialiste de la Turquie, merci d'être avec nous. Ekrem İmamoğlu, donc envoyé en prison, on pouvait s'y attendre, hein, c'est devenu vraiment la bête noire du président Erdogan ces dernières années.
Oui, devenu la bête noire du président Erdogan, d'autant plus qu'il avait gagné les élections municipales à Istanbul en 2019 avec une forte avancée. Et d'ailleurs, pour rappel, à l'époque, Erdogan n'avait pas concédé sa défaite tout de suite et donc l'élection municipale avait dû être réitérée. Suite à ce nouveau scrutin, la victoire d'İmamoğlu s'était confirmée durant cette élection municipale. Puis par ailleurs, lorsqu'a été organisée les tout dernières municipales en Turquie de l'année dernière, İmamoğlu avait été réélu assez confortablement face à son rival présenté par le candidat du parti présidentiel. Donc effectivement, depuis plusieurs années, İmamoğlu constituait une bête noire pour Erdogan, notamment en raison de sa popularité également dans les enquêtes d'opinion, et aussi parce que la caractéristique d'İmamoğlu, c'est qu'il peut parler à différents segments de l'opposition turque, ce qui n'est pas le cas nécessairement de l'autre figure du CHP qui pourrait également incarner l'opposition, Mansour Yavaş, le maire d'Ankara.
Cette procédure judiciaire est une nouvelle, hein, puisqu'il croule déjà sous les procédures judiciaires. Est-ce que ça signe pour vous la fin, une menace en tout cas pour son avenir politique, ou est-ce qu'au contraire ça pourrait renforcer l'opposition et son aura en quelque sorte ?
Alors il est clair que les conditions actuelles handicap très sérieusement sa survie politique. Pour rappel, l'université d'Istanbul a récemment retiré son diplôme universitaire.
Et c'est une nécessité par la Constitution pour être candidat à la présidentielle.
Voilà, c'est ça. Pour être candidat à la présidentielle, à l'élection présidentielle en Turquie, il faut être titulaire d'un diplôme universitaire. Or, l'université d'Istanbul a annulé son diplôme récemment. Il est poursuivi pour des allégations de corruption. Et là où on peut encore faire montre d'un certain pessimisme par rapport à l'avenir politique d'İmamoğlu, c'est que depuis plusieurs années en Turquie, il y a des opposants qui sont incarcérés. On pense aux anciens leaders du Parti démocratique des peuples, Figen Yüksekdag et Selahattin Demirtaş. Plus récemment, le dirigeant nationaliste Ümit Özdağ a également été mis en prison. Donc, autant d'éléments qui nous incitent à un certain pessimisme quant à l'avenir politique d'Ekrem İmamoğlu. Là où je nuancerais néanmoins, c'est que on voit aujourd'hui une participation massive aux primaires présidentielles organisées par le CHP.
On en parlait dans le journal.
Y compris dans des fiefs habituels de l'AKP. Et même si, d'un point de vue légal et politique, l'avenir présidentielle d'İmamoğlu est fortement remise en cause, une participation massive à ces primaires pourrait constituer un outil de légitimation pour le parti d'opposition.
Une primaire qui a été ouverte à tous les citoyens et pas seulement aux adhérents du CHP. L'arrestation du maire d'Istanbul, on l'a vu, a provoqué une vague de contestation, des manifestations monstres, vague de colère inédite, hein, sauf si je me trompe, depuis plus de 10 ans maintenant en Turquie, et qui dépasse la base des militants du CHP. Est-ce que ça peut durer selon vous ?
Je pense que ça peut durer, surtout qu'on est dans un climat économique et social bien plus délétère qu'il y a quelques années. On fait souvent la comparaison avec le mouvement de Gezi. Il y a une différence fondamentale entre le mouvement de Gezi aujourd'hui, c'est que entre-temps la situation économique s'est fortement dégradée, notamment pour les jeunes. Et ce qu'on constate aussi, c'est que contrairement à Gezi, ce mouvement de protestation semble avoir une base sociale plus large. C'est-à-dire que Gezi réunissait essentiellement des protestataires dans les milieux urbains et dans les milieux étudiants, alors que dans les protestations actuelles semblent réunir une base sociologique plus large. Par exemple, il y a eu des mobilisations d'agriculteurs à Konya qui pourtant est connu pour être un fief de l'AKP et de la droite religieuse plus généralement depuis les années 70, ce qui pose question sur le fait que ce mouvement s'essoufflerait. Il y a effectivement un climat économique et social et qui alimente cette protestation, et cette protestation semble réunir des segments assez divers de la population.
Et en face, les autorités affichent leur fermeté. Comment est-ce que vous interprétez ce raidissement du pouvoir, et comment cela s'inscrit aussi dans une perspective géopolitique avec le retour de Trump à Washington, l'Europe qui est préoccupée par sa sécurité, la chute de Bachar el-Assad en Syrie, etc.
Alors il est clair que le tournant la volonté d'Erdogan d'entrer dans un type d'autoritarisme désormais de plein fait, c'est une conséquence d'un climat qui a été rendu possible par l'élection de Trump, par le retour de Trump à la Maison Blanche. Désormais, les États-Unis sont moins enclins à se préoccuper de l'état de la démocratie dans le monde. On peut notamment mettre en parallèle l'indifférence des États-Unis par rapport à ce qui se passe en Turquie avec leur indifférence par rapport à ce qui se manifeste actuellement au niveau du conflit russo-ukrainien. Et on peut même aller plus loin. Par exemple, Elon Musk a censuré plusieurs comptes X proches de l'opposition turque et couvrant les manifestations en Turquie. Ce qui fait qu'on peut même aller jusqu'à dire que non seulement le retour de Trump aux responsabilités a favorisé une fenêtre d'opportunité pour les velléités autoritaires d'Erdogan, mais côté américain, il y a également un quasi-soutien à ce raidissement autoritaire.
Et donc le pouvoir a les mains libres.
L'équipe Trump-Moscou.
Merci beaucoup à vous, Max Valentin Robert, docteur en sciences politiques, spécialiste de la Turquie. Merci pour votre analyse et on suivra bien sûr ce bras de fer en Turquie. Ce sont des incidents qui se sont multipliés ces derniers mois, des ruptures de câbles stratégiques en mer Baltique, simple défaillance, pêcheurs ou sabotage intentionnel pour maîtriser les grands fonds marins. La marine nationale française développe en tout cas depuis 3 ans une capacité souveraine. Son ambition, c'est de devenir une référence mondiale dans la maîtrise de ces espaces. La France à la conquête des grands fonds marins, c'est la chronique Ligne de Défense avec Franck Alexandre.
D'une importance majeure, les grands fonds marins sont pourtant moins connus que la surface de la Lune. Et pour la Marine nationale, le réveil a sonné en 2007 quand un sous-marin russe a réussi l'exploit de déposer à l'aplomb du pôle Nord, par 4000 mètres de fond, un drapeau anti-titane aux couleurs de la Fédération de Russie. Un véritable signalement stratégique, se souvient le contre-amiral Cédric Chetaille, coordinateur central pour la maîtrise des fonds marins.
Un message qu'il voulait nous dire, c'est un espace commun, mais en fait c'est un espace qui appartient à ceux qui sont capables d'agir et d'intervenir à cet endroit-là. Donc moi, je suis capable de le faire. Vous, vous n'êtes pas encore capable de le faire. Aujourd'hui, on est en train de rattraper ce retard et on sera à très court terme capable de faire le même type de mission.
Pour accéder au grand fond, la Marine nationale peut déjà compter sur plusieurs robots autonomes pouvant descendre jusqu'à 2000 mètres. Et à court terme, l'objectif, c'est 6000 mètres.
6000 mètres, ça correspond à une ambition, à la vocation mondiale de la marine française. On déploie nos forces partout dans le monde. On est capable d'atteindre 97% du plancher des océans quand on est capable d'aller à 6000 mètres de fond. Et quand on a la volonté, avec un robot, d'être capable de ramasser, de sectionner, de rassembler, de nouer, d'agir, il faut maintenir ce robot à quelques dizaines de centimètres de sa cible.
Nature, des sédiments, variations, du champ magnétique, cartographie, autant d'éléments qu'il faut maîtriser. Et la vitesse des manœuvres sous l'eau est également un élément clé, contre-amiral Chetaille.
Le milieu sous-marin ne permet pas une communication continue avec l'engin. Après la mission, quand on récupère le drone, il faut tout décharger rapidement pour pouvoir réorienter la mission suivante. Et c'est ce cycle de observation par le drone, exploitation de la mission, décision et orientation de la mission suivante qu'il faut mener le plus rapidement possible pour obtenir un cycle qui soit supérieur à celui de nos adversaires.
Câble de télécommunication sectionné accidentellement ou volontairement, la guerre hybride se joue aussi dans les grandes profondeurs et dans le collimateur des marines de l'OTAN. Il y a le navire espion russe Yantar, un bâtiment souvent présent le long des côtes européennes.
Le navire russe Yantar, c'est un navire très intéressant parce que c'est un des très rares navires au monde qui est spécialisé et qui est très moderne pour mettre en œuvre des capteurs et des engins en toute discrétion qui vont aller très profond. C'est un navire qu'on surveille, c'est un navire qu'on traque pour l'empêcher de nuire à nos intérêts et de restreindre ce qu'on appelle notre liberté de manœuvre. Ça veut dire qu'on ne veut pas que l'usage potentiel des fonds marins à partir d'un navire comme le Yantar ne nous contraigne.
La maîtrise des grandes profondeurs s'impose, en particulier pour la France qui possède le deuxième domaine maritime mondial. C'est aussi un défi technologique qui, à ce jour, n'est à la portée que de quelques marines dans le monde.
Toutes les chroniques Ligne de Défense avec Franck Alexandre, c'est sur RFI.fr.
RFI Midi, le monde à la mi-journée. Charlotte Hydrac.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous l'avez peut-être reconnu, cette célèbre réplique du célèbre film Forrest Gump, interprété par Tom Hanks, qui court pendant des années. Eh bien, c'est devenu la phrase préférée d'un Chilien, Antonio Marshall, marathonien de 41 ans, qui court lui aussi, habillé comme Forrest Gump, en faisant passer des messages de respect et de tolérance. À Santiago, Naila Derouané l'a rencontré.
Tout commence pendant la pandémie de Covid. En télétravail chez lui, Antonio Marshall se laisse pousser la barbe et les cheveux. Un jour, alors qu'il fait son footing, un passant lui fait remarquer sa ressemblance avec ce célèbre personnage de film qui court sans s'arrêter.
Quand ils ont annoncé le retour du marathon de Santiago, j'ai repensé à ce que m'a dit ce monsieur et j'ai eu l'idée de faire la course déguisée en Forrest.
En quelques clics, Antonio achète la casquette Booba Gump, le t-shirt jaune, le short rouge ainsi que les baskets blanches. Après quelques hésitations, il sort finalement inaugurer son costume avec sa grande touffe de cheveux et sa longue barbe.
Dès les premiers mètres, une publication Twitter disait que Tom Hanks était au Chili et ça s'est viralisé.
Antonio a même appris certaines répliques du film par cœur et il a adopté la façon de courir de Forrest Gump.
L'idée, c'est de représenter le personnage de la manière la plus authentique possible, pour que les gens, même 30 ans après la sortie du film, sentent la présence de Forrest Gump, qu'il est toujours d'actualité.
Mais au-delà du déguisement, il s'identifie lui-même à Forrest Gump. Ce personnage souvent moqué à cause de son autisme, Antonio, lui, était un enfant timide.
Ça a été très dur au primaire, entre 8 et 12 ans. On me donnait de méchants surnoms, alors je jouais seul. Quand les gens ne connaissent pas la vie des autres, ils inventent.
Depuis qu'Antonio incarne Forrest, il a acquis de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il en profite alors pour faire passer des messages contre le harcèlement et sensibiliser à l'autisme.
Je crois que la normalité, c'est d'être différent. Donc à partir de là, il faut tolérer et respecter les différences, les valoriser. Chaque différence, chaque individualité a un potentiel.
Lors de sa dernière course de l'année à Santiago, plus de 80 personnes ont couru à ses côtés, certains avec des bonnets de Noël, d'autres des chapeaux de lutin.
On aime la cause qu'il défend, donc on a décidé de l'accompagner aujourd'hui.
Je vais là où se trouve Forrest.
Vous venez de l'appeler Forrest?
Oui, c'est sous ce nom qu'on le connaît. J'ai adoré le film. Et quand j'ai vu Antonio, j'ai dit « waouh ». Donc à chaque fois qu'il participe à une course, on y va.
Il est iconique, il s'habille comme lui, on a envie de le suivre.
On a des proches qui sont atteints d'autisme, avec différents types de handicap, c'est pour ça qu'on est là.
La course commence et une participante crie « Cours Forrest, cours ». Naïla Drouané, Santiago, RFI.
À Santiago, il est 9h26, 13h26, à Metz, dans l'est de la France. Comme ce Forrest Gump chilien, il propose une autre vision du monde, plus positive, plus optimiste. Une quarantaine d'artistes issus des Caraïbes et de la Méditerranée, exposés en ce moment au centre Pompidou-Metz, avec l'expo « Après la fin, carte pour un avenir », Muriel Malouf.
Un film montrant une danse de l'escargot du mouvement zapatiste ouvre le parcours et donne le ton de l'exposition. Manuel Borja-Villel, commissaire.
Caracoles is the way they call their towns.
Escargots, c'est ainsi qu'ils appellent leur ville. Ce qu'ils proposent donc, c'est une autre forme de connaissance et de gouvernance.
Ainsi, l'escargot ou la spirale constitue la scénographie de l'exposition. Dans la spirale, le passé et le futur sont liés, les lieux également. Une quarantaine d'artistes des Caraïbes et de la Méditerranée proposent ainsi leur vision utopiste à l'encontre du système libéral hégémonique et du colonialisme créateur de frontières. Chiara Parisi, directrice du centre Pompidou-Metz.
Il a conçu la scénographie en 8, donc avec des cercles qui séparent, des mondes. Donc il commence avec la sphère, on peut dire, latino-américaine, donc Brésil, Cuba, les Caraïbes français. Et l'autre partie de l'8, l'autre partie du cercle, c'est la Palestine et les autres territoires, donc la Méditerranée.
Dans ce 8 cohabitent des artistes diasporiques, comme ils sont nommés dans l'exposition, pour qui la frontière n'est pas qu'une limite, mais un carrefour.
Les rapports, c'est un rapport de souffrance, de combat, mais aussi de beaucoup de poésie et de force, d'optimisme et des possibilités de régénérer notre regard aujourd'hui. Ces artistes-là, parce qu'ils sont là depuis toujours, sont là depuis des siècles. On a même des figures, par exemple, comme Wilfred Lam, qui est un des plus grands artistes du surréalisme. Et ta nouvelle génération, qui parle donc des mêmes questionnements, ça veut dire qu'on peut vivre dans un monde collectif sans qu'il y ait une hégémonie culturelle d'un peuple sur un autre.
Ainsi, l'artiste palestinienne Ahlam Chebli présente dans Occupation une série de photos prises durant 2 ans dans sa ville d'Al-Khalil à Hébron et rendant compte des traces de la colonisation israélienne sur l'architecture. Murs, clôtures, barbelés, caméras, autour des maisons palestiniennes dominées par les immeubles flambant neufs des colons. En écho, le collectif marocain Tizine Tizoua présente un film sur les traces du peuple amazigh aux îles Canaries qui aurait été massacré au XIVe siècle et dont il reste le silbo, un langage de sifflet. Olivier Marbeuf propose lui une magistrale fresque sonore et une sorte de cartographie réparatrice des effets de la colonisation et dominée par le bleu de la mer. Des œuvres et une exposition puissante.
Oui,
Voilà, après la fin, carte pour un avenir, exposition donc en ce moment au Centre Pompidou à Metz dans l'Est de la France et jusqu'au 1er septembre. Restez avec nous à suivre Afrique Midi avec Simon Bourtembourg dans 30 secondes.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Depuis le massacre début mars d'un millier de civils alaouites à l'ouest de la Syrie, le spectre d'un nouvel embrasement du pays a ressurgi. La transition est-elle menacée? Le président par intérim, l'islamiste Ahmed al-Shara, réussira-t-il à cimenter une Syrie morcelée en communautés et ruinée par 13 ans de guerre civile?
Géopolitique, Chantal Leroux.
Tout à l'heure, à partir de 18h41.
RFI.